Nous sommes le 19 mars, ici à Unimail, et nous sommes à Unimail pour la dernière partie de cette émission, en compagnie de Rim et de Karim. Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, je suis ravi de vous recevoir. On vous reçoit pour plusieurs choses, mais avant tout, vous êtes tous les deux membres de l'AMAJ. AMAJ étant l'acronyme de l'Association du Monde Arabe de l'Université de Genève.
Vrai.
Alors, voudriez-vous nous dire depuis quand vous en êtes membre et depuis quand cette association existe-t-elle? Qu'est-ce qui veut commencer?
Donc voilà, pour l'AMAJ, j'étais un des cofondateurs en 2016. On l'a fondée au printemps 2016. Elle existe depuis, justement. Et donc ça fait presque 3 ans que l'AMAJ c'est une association universitaire. Et l'AMAJ, c'est la philosophie derrière l'association. L'AMAJ se veut une association qui porte un nouveau regard pour la région dont elle porte le nom, donc le monde arabe. Autre que les grilles de lecture qui nous sont proposées de nos jours, les grilles de lecture souvent faussées, souvent simplistes, souvent très facilement construites. Donc l'AMAJ, via des conférences, via des cercles de relecture, via des ateliers, via des concerts, se propose de présenter cette sphère géographique qu'est le monde arabe sous un visage nouveau. Et il ne faut pas surtout faire l'erreur que l'Association du monde arabe de l'Université de Genève, ce n'est pas une association exclusivement pour les Arabes. C'est plutôt une délimitation géographique. Et nous devons être porte-parole, si on veut dire comme ça, de toutes les personnes qui s'y trouvent, Arabes et autres, Kurdes, Arméniens, Syriaques, Turcs, Turkmènes, Berbères, tout. Tout qui s'y trouve, on doit le présenter pour présenter la région sous le visage le plus diversifié possible.
Alors justement, quelle est-elle cette sphère géographique du monde arabe? Rim, voudrais-tu nous en dire plus de ce côté-là? Parce que c'est vrai que quand on parle monde arabe, immédiatement, voilà, le sens commun comme ça pourrait désigner une région très précise qui serait le Proche-Orient, le Liban, la Syrie, etc. Mais ça n'est pas que ça.
Pas que ça, et puis je suis relativement bien placée pour le dire étant donné que je suis algérienne. Beaucoup de personnes s'identifient comme étant arabes au nord de l'Afrique, généralement au-dessus du Sahara, mais pas que. Généralement, le Maghreb, en termes généraux, est comptabilisé entre guillemets dans le monde arabe, historiquement parlant. Et puis plus généralement, enfin, on n'aime pas dans la marge, on n'aime pas trop faire la différence entre l'Orient oriental vers Syrie et puis l'Orient un peu moins oriental qui se retrouve en Afrique. On a réellement, on a eu des moments où c'était un peu plus axé l'un ou axé l'autre, mais là cette année, je trouve qu'on a une belle variété à la marge qui représente bien les deux. Et puis même en termes généraux, même toutes les personnes qui se veulent relier au monde arabe, qui ne sont pas forcément des pays qu'on appelle arabes entre guillemets non plus.
Si on veut définir, ça serait comme le monde arabe comme on en parle aujourd'hui, du Maroc jusqu'à l'Irak.
Jusqu'à l'Irak,
et jusqu'au Yémen, les pays qu'on nomme arabes.
Okay, ok.
Après, on peut aussi toujours faire des parallèles, retrouver des points avec l'Iran, la Turquie, d'autres pays qui ne sont pas arabes, parce que ça serait que de la valeur ajoutée à nos dynamiques.
Selon vous, alors l'identité arabe est certes plurielle, que diriez-vous de l'identité arabe s'il fallait la définir d'une certaine manière, ou en tout cas en donner quelques jalons? Karim,
l'identité arabe, bon, c'est déjà être arabe. Que veut dire arabe? C'est une grande question qui jusqu'à aujourd'hui est d'actualité. Donc être arabe, est-ce appartenir à la zone géographique et le monde arabe, ou est-ce être ethniquement arabe, ou est-ce que ça veut dire parler arabe, ou est-ce que ça veut dire être musulman aussi? Mais la dernière, si on veut le dire, c'est la plus fausse, parce que c'est pas sur un critère religieux qu'on va baser ce sens, cette appartenance. Donc être arabe, ça revient à chacun. Bon, mais tant qu'on s'identifie en tant que, c'est pas non plus un kit qu'on prend complet. Ça peut marcher à la carte aussi être arabe, vous voyez, parce que des points communs entre un ouvrier irakien et un bourgeois marocain, il y en a pas, à part la langue et la religion à moitié, parce qu'il y a des chrétiens ici et il y a des différences là-bas. Mais les deux peuvent se définir comme arabes, de par la langue, de par le sens d'appartenance, les musiques, la culture, tout ce qui va avec. Mais se définir comme arabe ou pas n'est pas non plus, ça n'a pas non plus cette grande envergure dans nos dynamiques. parce qu'on représente la région au final et on inclut toutes les minorités qui s'y trouvent, qui ne se considèrent pas comme arabes. Donc.
On a pas mal de membres qui ne sont absolument pas d'origine des pays qui sont dans la zone géographique dont on a parlé, qui... On a une belle diversité religieuse, on a une belle diversité au terme des pays, on a beaucoup de enfin, je donne un exemple, on a une personne qui est moitié marocaine, moitié de Côte d'Ivoire, je crois. Ouais. On a des personnes suisses aussi qui sont très intéressées par ce qu'on fait parce que ça les intéresse, qu'ils aiment bien, que quand on fait un concert, la musique est sympa, que la nourriture est sympa. Donc réellement, c'est on est arabe à partir du moment où on aime bien ce qu'on voit, ce qu'on vit.
Voilà, donc on sent bien qu'il n'y a rien de dogmatique là derrière. C'est vraiment quelque chose qui appartient plus à la culture, aux droits culturels, hein, qui sont des notions...
Exactement. On n'est pas non plus des nationalistes arabes, comme de certains partis politiques. On n'appartient pas à cette école non plus. C'est ça la grande nuance.
Absolument. Alors, d'où est venue cette idée, Karim, puisque tu en es le cofondateur, de créer cette association?
Alors c'est une idée qui remonte une ou deux années en arrière. J'étais pas en Suisse encore, c'était deux des cofondateurs aussi qui avaient l'idée avec d'autres personnes, mais les autres personnes sont parties pour des raisons pour des autres de Genève, et j'étais arrivé avec Gabriel qui est ici mais qui est pas dans l'entretien, et nous étions quatre. Il y avait moi, mon frère, deux autres amis qui sont Gabriel et un ami qui est actuellement membre. Et on s'était dit, bon, c'est le moment. Parce qu'à Genève, une telle initiative, il n'y en avait pas encore dans la sphère universitaire. Bon, il y a la librairie L'Olivier au Paqui qui est un très bon partenaire depuis notre création. Et on s'est dit, on doit lancer ça pour mettre la première pierre, si on veut, pour après construire et continuer la dynamique. Pour, de un, proposer une image nouvelle, créer une dynamique de réflexion, surtout autour des questions qui touchent la région, politique ou pas, mais la MAJ n'est pas partisane, c'est ça la grande nuance, mais on traite de sujets politiques parce qu'il le faut. On est dans la sphère universitaire, on est étudiant, on a le luxe de pouvoir penser à Genève, loin de nos problèmes, pour pouvoir y remédier de la meilleure manière. Donc on s'est dit, il faut lancer ça, et tout ce qu'on peut faire pour déconstruire les grilles de lecture actuelles faussées qui traite du monde arabe, on le fait. On fait de notre mieux.
Très bien, très bien. En quoi ces grilles de lecture sont-elles faussées, selon toi, selon vous? Et que faire pour y remédier?
J'ai remarqué quelque chose qui n'est pas nécessairement inhérent au monde arabe, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit dans le monde oriental ou occidental, d'ailleurs, c'est pas du tout propre, mais beaucoup de gens pensent qu'ils savent beaucoup de choses. Et c'est généralement faux. Et même quand on sait des choses, on ne les sait pas forcément bien, et on ne les sait pas forcément dans tout leur contexte. Et je trouve que ça peut toujours être une bonne chose d'avoir des personnes érudites sur certains sujets qui viennent et qui nous donnent un contexte, qui nous donnent les éléments, les outils pour pouvoir avoir des opinions informées de ce qui se passe. Il y a des sujets dont on ne parle pas forcément. Par exemple, je pense au dernier événement assez grand qu'on a fait, c'était sur le féminisme au monde arabe en décembre. C'est un sujet dont on ne parle pas, soit c'est un sujet qui est traité par des personnes qui ne connaissent pas le monde arabe ou qui ne connaissent pas la situation de la femme dans le monde arabe, et c'est même limite une hérésie ce que je dis là, parce que la situation de la femme dans le monde arabe, c'est faux, juste en termes de phrase, parce que le monde arabe c'est grand, et puis les situations sont différentes en fonction des régions, en fonction de quelle femme, en fonction en fonction de beaucoup de choses. Donc typiquement, il y a plein de sujets comme ça qui sont, à mon sens, importants de traiter, et puis importants de traiter correctement, et puis je trouve que c'est un travail qu'on essaye de faire le mieux possible pour réellement donner tous les éléments. On ne donne pas d'opinion, on ne donne pas de prise de position, on ne montre pas aux gens « Ah non, c'est pas comme ça, c'est comme si ». On donne les éléments, et puis chacun ensuite est libre
de tirer les conclusions
exactement
qu'il souhaite. Mmh. D'accord. Pour y remédier justement à cette méconnaissance du monde arabe, c'est ça. C'est le fait justement d'apporter des éléments de réflexion supplémentaires, et c'est ce que vous vous évertuez de faire. D'accord. Dites-moi, quelles ont été les réactions à l'université, d'abord, et puis ensuite vers l'extérieur des personnes. Donc quand je dis à l'université, je parle du rectorat, de l'institution, et ensuite des personnes extérieures suite à la création et aux activités de l'association sur lesquelles nous allons arriver.
Jusque-là, tout a été très bien accueilli. Mm-hmm. Jusque-là, on a eu des problèmes avec aucun événement qu'on a organisé, mais tout au contraire. On n'a eu que des félicitations, non ?
Jusque-là, et donc maintenant, ça fait 3 ans déjà ?
3 ans déjà, si on peut le dire comme ça, 3 ans de succès.
3 ans de succès. Eh ben, c'est très bien, on vous en souhaite beaucoup plus et de succès encore plus grand. Alors voilà, quelles en sont les activités principales ? On a vu que voilà, vous avez déjà ébauché cette réponse-là, des concerts, également de la culture, des conférences. L'actualité, c'est ça. Les prochains événements à venir, c'est notamment le concert dont on va parler maintenant, qui est le 2 avril, hein, si j'ai bien compris.
Exact.
Mais je vais vous laisser le présenter. Puis ensuite, ce sera la conférence en présence de Georges Cormes, du professeur Georges Cormes, qui est, si je ne me trompe pas, ancien ministre des Finances au Liban.
Exactement.
Et qui est une figure tutélaire, notamment, alors j'ai cité le Proche-Orient éclaté, mais plus
la liste ne finit
voilà,
pas.
Exactement, un spécialiste peut-on dire du Liban et notamment de la période également de la guerre civile, une quinzaine d'années
exactement.
De guerre civile.
Et voilà. Même de grandes problématiques internationales.
Ouais. D'ailleurs, comment ça se fait que vous avez choisi, est-ce qu'il y a quelque chose derrière le fait de choisir le Liban, qui est un pays singulier, avec une communauté, avec une diversité de communautés incroyable et avec une utopie d'une certaine manière concrète qui a pu à un moment donné être battue en brèche par cette guerre civile si longue, qui fratricide d'une certaine manière et qui maintenant remonte, ressurgit et peut-être redonne espoir à des communautés d'embrasser une culture ensemble.
Donc le choix du Liban pour cette conférence-là n'était pas du tout aléatoire. Donc bon, de un, il y avait dans l'association, on s'est dit, d'une manière ou d'une autre, faudra traiter du maximum qu'on peut dans la région. Et là, le Liban, bon, la date n'est pas aléatoire parce que la conférence, c'est le 11 avril.
Et le... Tu veux dire pourquoi, le 11 avril ?
Oui. Parce que en fait, on voulait la faire le 13. Mm-hmm. Mais le 13, ça nous était impossible parce que c'est un samedi et parce que le 13, en fait, c'est la commémoration du début de la guerre civile au Liban. Le 13 avril 75. Et du coup, le 11, c'était la date la plus proche, parce que c'est un jeudi, sinon ça serait un vendredi. Et bon, faut savoir un petit peu, faut connaître un peu la problématique, parce qu'au lendemain de la guerre civile, en août 91, une loi d'amnistie a été adoptée au Parlement, qui a, comme on l'a mis dans la description, qui a créé une amnésie nationale, qui a eu comme conséquence une amnésie collective sur les crimes de guerre qui ont eu lieu au Liban. Donc personne n'a été jugé, aucun tribunal, pas de commission vérité-justice comme dans d'autres pays. Et on s'est dit, on a choisi le titre en fonction de ça. Donc le titre c'est Liban, une institutionnalisation de l'oubli. Institutionnalisation qui fait référence à la loi et de l'oubli parce qu'on a écrit noir sur blanc qu'on va oublier ce qui s'est passé. Mmh. Bon, oublier, est-ce bon ou pas, on invite toute l'audience à venir le 11 avril débattre avec nous. Mais on s'est dit ne pas en parler parce qu'au Liban, depuis le début de la guerre, il n'y a que des initiatives privées qui en ont parlé. Et ne pas en parler, vu qu'on a la chance ici, ça serait en quelque sorte être complice à l'oubli, dont il ne faut pas être. Et puis voilà.
Absolument.
Ça sert en deux mots.
En deux mots, on va revenir juste derrière. Oui. Allons dans l'ordre du calendrier. Le 2 avril, c'est un concert. Alors, voulez-vous nous parler du concert ?
Alors,
on peut déjà dire que ce sera au Temple de Plein Palais,
exact.
Le 2 avril à 19h30, les portes ouvrent à 19h, et ensuite ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas notre première tentative, ou même succès de concert, je dirais. L'année dernière, on avait ramené un groupe qui s'appelait Mazage, l'ensemble Mazage. On les avait ramenés de Moyen-Orient. Pour faire ce concert, c'était magnifique. C'était un concert de musique arabe traditionnelle. C'était de l'instrumental pur et puis tout le monde était assez émerveillé parce qu'ils ont vraiment broché une large playlist de musique qui était connue partout. C'est marrant, parce qu'il y a certaines musiques qui sont connues par des Algériens, des Syriens, des Libanais, des, peu importe. Et puis c'était vraiment magique, réellement. C'était super sympa. Il y avait 250 personnes qui étaient là. C'était, on a rempli le temple.
Et alors pour cette fois-là
on s'est dit justement, vu la variété de régionale, géographique qu'on a au sein de la Mage, vu que l'année dernière on a fait un peu Moyen-Orient, cette année on s'était dit qu'on essaierait de faire un peu plus Nord-Afrique. Et c'est pour ça qu'on a un peu fait jouer de nos contacts pour essayer de trouver un groupe. Puis on a réussi à trouver un quatuor qui faisait de la musique relativement traditionnelle algérienne, donc du charbi. Et puis, bon, on fera pas que ça parce qu'on sait que les gens qui sont venus l'année dernière étaient pour grande partie du Moyen-Orient, donc on ne veut pas non plus les brusquer avec que de la musique algérienne, puisque même en termes de langue, ils ne comprendront pas forcément tout, quoique ce n'est pas tellement important parce qu'on peut tous bouger de toute façon. Mais du coup, il y aura un peu les mêmes bases que l'année dernière sur les musiques que tout le monde connaît, instrumentales, orientales. Beaucoup, beaucoup de charbi pour faire connaître ça aux gens qui ne connaissent pas, pour faire plaisir aux Algériens qui n'ont pas forcément toujours des concerts à Genève de ce type-là. Et puis voilà quoi, pour faire une deuxième édition de ce concert qui était un immense succès l'année dernière et qui avait fait parler de nous au-delà du contexte universitaire, ce qui à mon sens est limite un miracle étant donné qu'on est une association universitaire, faut pas l'oublier. Et donc oui, quatuor, il y aura un violon, une mandole, un banjo et puis des percussions, des bouka. Ça va être super sympa. donc voilà, on attend autant de personnes, je l'espère. Et bon, la seule différence, c'est que c'est un mardi. Mais un mardi, c'est pas grave, on aime bien, on fait de la musique quand même, c'est relativement tôt. Et voilà.
On le rappelle, mardi 2 avril, dès 19h30, les portes ouvrent à 19h au temple de plein palais. Les billets sont en vente à l'entrée. Les paiements, ça c'est important de le dire, c'est que du cash.
Alors, les billets sont en vente aussi sur l'événement Facebook. J'ai mis en place un lien PayPal pour les personnes qui préfèrent les paiements en ligne plutôt que le paiement par cash. Oui. Parce qu'étant donné qu'on est une association étudiante, on n'a pas forcément on n'a pas l'infrastructure pour avoir les paiements en carte. Donc généralement paiement par cash, mais après bon, il y a des distributeurs un peu partout autour.
Et puis je retrouve un moyen. Et puis à la librairie de l'Olivier.
Et aussi, oui, ça, qui est notre partenaire depuis le début.
J'imaginais bien que c'était votre partenaire privilégié. 5 rue de Fribourg à Genève.
Absolument.
Au Paquis, donc la librairie de l'Olivier, bien connue quand même, en tout cas par les Paquisards certainement. Y aura-t-il d'autres concerts ensuite ? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous pensez à moyen long terme ?
Le but réellement, c'est que on rende ce concert l'événement phare de la Mage annuelle. C'est-à-dire qu'on est une association qui, chaque année, fait différents types de conférences, différents types d'expositions photos, différents types d'expositions artistiques. Mais réellement, ce concert, pour le moment, c'est la chose qui revient toutes les années. Bon, ça fait que 2 ans. Mais il y a une réelle volonté derrière. Et puis les membres sont très, très, très contents qu'on fasse ça. Et puis, ils ont vraiment envie qu'on continue. Ils ont des idées pour l'année prochaine. Et je pense qu'on ne peut que bien faire et mieux faire les années suivantes en continuant cette initiative.
Absolument. Toutes ces informations-là, est-ce qu'on les retrouve sur un site internet, sur une page Facebook ou de quelle manière ?
Site internet, pas encore, mais je crois que c'est en...
L'idée vous habite.
L'idée est là, on est en train d'essayer. Okay. Sinon, il y a tout sur la page Facebook de la Mage, et puis il y a un événement Facebook, et puis il me semble même que l'événement a été partagé sur le site de l'Olivier, c'est sur le site de l'Uni aussi. On a réellement essayé de toucher le plus de personnes possible, donc il est vraiment publié sur toutes les plateformes qu'on connaît, qui sont disponibles à notre disposition pour partager l'événement. Donc toutes les informations concernant l'événement sont sur l'événement Facebook, partagées sur toutes ces pages. Et puis toutes les informations reliées à la Mage et ce qu'on fait, ce qu'on fera, d'autres concerts éventuellement, seront toujours postés sur Facebook,
Facebook
ou alors sur Instagram. On a commencé Instagram cette année. Donc.
Oui, c'est bon à savoir.
Voilà.
Pour la programmation, est-ce que c'est facile justement de trouver les artistes, soit locaux mais qui pratiquent ce genre de musique, soit carrément de les faire venir. Moi, je me souviens d'un concert de Khalil Gibran. Bon, incroyable.
J'imagine.
Mais, alors, est-ce qu'on peut imaginer, voilà, que vous faisiez, alors je ne sais pas pour cet artiste-là, mais de faire venir carrément des artistes, ça, bah, c'est quelque chose qui pourrait être possible.
C'est ce qu'on a fait l'année dernière. On les a, réellement, on les a ramenés. Alors, le seul souci qui se pose réellement, c'est bah, les finances.
Et oui.
Oui. Nous, notre volonté, c'est, étant donné la volonté de l'association, on ne veut pas forcément faire un concert dans l'enceinte de l'Uni qui n'est que pour les étudiants. Et ça pose problème. Pourquoi ? Parce que toutes les subventions qu'on pourrait éventuellement avoir demandent justement que ce soit quelque chose qui soit que pour les étudiants. À partir de ce moment-là, on finance tout nous-mêmes. On prend un risque énorme chaque année. On a pris le risque l'année dernière de les faire ramener, de payer, vous savez, l'avion, l'hôtel,
ouais, puis,
les extras pour les instruments.
Et puis il faut des visas, selon quoi ? Nous, on avait ce problème avec des artistes palestiniens. Ouais. Où les visas prenaient beaucoup de temps.
Là, il me semble que ça allait parce que c'était un groupe qui s'était déjà déplacé plusieurs fois en Europe. Donc, réellement, tout ce qu'on a dû payer, c'était... Mais il y a toujours de mauvaises surprises. Hein. Je vous donne un exemple. Je suis trésorière, donc je sais. les extras pour certains des instruments qui sont apparus d'un coup et qu'il y a plusieurs centaines de francs. Je ne sais pas comment les payer. C'était horrible. Mais après, vu le succès que ça a eu, on a réussi à tout payer... Enfin, c'est à savoir, on le fait vraiment pas pour l'argent. L'entrée est payante. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui comprend pas forcément, étant donné qu'on est association étudiante, mais on paye tous nos frais avec ces entrées, en fait. C'est parce qu'on n'est pas subventionné par qui que ce soit, parce que justement, on a fait le choix de, si un étudiant veut venir avec ses parents, si un étudiant veut venir avec des cousins qui sont en train de visiter, qu'il ait le choix de le faire.
Il faut que ce soit accessible.
Et réellement,
financièrement,
voilà. Donc, après, financièrement, c'est clair que si on doit ramener quelqu'un d'Australie, qu'il faut payer 3000 francs pour chaque personne, ça va être compliqué.
J'imagine.
Mais tout est une question de budget. On essaie de voir avec eux ce que eux peuvent peut-être prendre à leur charge. Il y a plein d'artistes qui acceptent de prendre certaines choses à leur charge. Là, le groupe est d'ici, mais il y en a certains qui viennent de Lausanne et ils ont accepté de faire l'effort de venir à leurs frais. Puis, si c'était pas le cas, on avait eu aussi éventuellement des gens de Paris qui auraient fallu ramener en train. Mais c'est tout est une question de budget, réellement. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière, on sait ce qu'on peut faire. On regarde, on prend les risques, on vérifie que ça peut être éventuellement faisable ou non. On se met pas dans la mouise avec les gens en leur promettant des sommes pas possibles. On essaye au plus de faire des restrictions budgétaires justement avec le temple et pas dans une autre salle qui est peut-être plus grande et plus appropriée pour un concert. Mais l'aumônerie de Genève a été suffisamment agréable avec nous pour accepter sa moindre frais. Et donc ça permet de faire un concert qui est beau, qui est accessible à tout le monde, qui permet à tout le monde de décompresser un peu. Et puis
Également qui est viable, que vous pouvez refaire.
Oui, oui. Bah là, pour le moment, on a pris le risque l'année dernière, ça s'est bien passé. On reprend le risque cette année, j'espère que ça va bien se passer.
En tout cas, on entend les arguments de la trésorière.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est extrêmement important de se dire que, voilà, pour pouvoir
reconduire... Ah, mais c'est un stress constant. Voilà, je vous le dis, on a lancé la publicité pour le concert la semaine passée et j'ai constamment peur d'avoir entraîné les gens dans une situation...
Casse-pipe.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais au final, on réalise pas forcément, mais au fur et à mesure des interactions humaines, on réalise que les gens sont bons. On a des artistes qui sont là en mode « Oh, je te fais confiance et puis on verra après ». Donc du coup, ça amoindrit, hein, parce que le cachet, c'est quand même la plus grosse part la plupart du temps. Donc quand on a des artistes qui sont compréhensifs de notre situation, qui savent qu'on est étudiant, on est dans une association étudiante à but non lucratif, on ne fait pas d'argent... on n'a pas d'argent, on n'a pas de subvention, donc c'est...
Ouais, voilà. C'est bien sûr. Alors j'ai bien compris que la librairie de l'Olivier vous épaulait d'une certaine manière. Y a-t-il d'autres associations pairs à Genève ou ailleurs avec lesquelles vous commencez, vous installez des relations et de l'entraide serait possible? Je pense, je sais pas moi, à Collectif Urgence Palestine, mais à plein d'autres. Ou pour le moment, c'est pas encore quelque chose qui est à l'ordre du jour.
Pour dire que comme la librairie de l'Olivier, on n'en a pas encore.
C'est, d'accord.
Ça peut arriver ponctuellement pour des questions précises. Mais sinon, comme vous avez cité Collectif Urgence Palestine, Palestine Filmé S'Exister, c'est des partenaires dans le sens où on se fait la pub mutuellement. Ouais. Mais au stade de Librairie L'Olivier, jusque-là, on n'a que la Librairie L'Olivier. Et d'autres acteurs pourraient intervenir ponctuellement, dépendamment de ce qu'on fait.
D'accord. Alors, avant de passer à la conférence, on va rappeler l'horaire, la date, tout ça, mais j'ai encore voulu vous demander à la MAJ de quoi, du coup, auriez-vous besoin ? Est-ce que ce serait que une multitude de personnes vous rejoignent pour comme bénévole, pour vous aider ponctuellement ou régulièrement ? Est-ce que ce sont des lieux pour y faire des choses, des stands de présentation ou je sais pas quoi ? De l'argent ? Est-ce que des gens peuvent verser de l'argent ? Voilà. Ou est-ce que c'est un petit peu détroit ?
Oh, vous savez, c'est toujours des trois. Hein.
Un petit peu des trois. Non, mais
c'est toujours des trois. Ouais. La réalité, c'est que si on arrive à avoir des locaux pour les événements, parce qu'on a beaucoup aussi de membres qui proposent des choses, mais je vous donne un exemple tout concret. Le seul local qu'on a à notre disposition réellement, c'est l'université. Les surfaces pour les événements, pour les louer, entre guillemets, planifier des événements, il faut le faire à peu près 8 mois à l'avance, sinon c'est pas possible.
Ouf, ouais.
Je vous donne un exemple, on voulait faire une exposition photo en rapport avec l'Algérie. On s'y est pris en février pour demander à l'université, ils nous ont donné la moitié d'une surface pendant 3 jours.
Ah, ouais.
Parce que c'était pas possible autrement. Donc typiquement, si on a des locaux qui peuvent abriter ce genre d'événements et qu'on n'ait pas demandé à l'université, ce serait top. Financièrement, bah, c'est vrai qu'on finit, je suis trésorière depuis un an et demi, on finit quasiment les années à chaque fois à zéro. Parce que tout ce qui rentre ressort pour les événements, que ce soit la publicité, que ce soit, vous savez, les affiches, que ce soit les frais de... Si on fait un apéro, il faut ramener la voiture pour aller chercher les trucs et puis les ramener. Puis voilà, y a tout plein de frais qui, au bout d'un moment, s'accumulent. Et puis, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça de finir l'année avec zéro, quoi, parce que c'est pas pour l'argent qu'on le fait, mais c'est-à-dire que si on arrive à avoir un petit pécule pour le comité à venir, pour qu'il ait pas à soucier justement de faire de l'argent sur les événements pour pouvoir subvenir aux besoins des événements suivants, ce serait pas plus mal.
Les réserves, donc, ce serait bien. Donc des dons, clairement. Et la main d'œuvre, est-ce que de ce côté-là, c'est quelque chose qui, pour le moment, va bien?
On a pas mal de membres. Cette année, on est à peu près à, je crois, 45 membres, une cinquantaine de membres, qui sont de, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des membres qui viennent de différentes facultés à l'université, donc il y a différents types de capacités qui sont mises en œuvre, donc c'est super. Après, c'est généralement, les nouveaux membres sont en première année, deuxième année, donc il y a des choses dont on a besoin qui ne sont pas forcément là. Par exemple, quelqu'un qui est dans le digital pour les affiches, on doit faire les affiches nous-mêmes parce qu'on n'a pas quelqu'un qui est pour ça. C'est un peu compliqué parce que je donne un exemple. Moi, je suis en finance. Les affiches, je ne sais pas faire. Les gens qui sont en relations internationales, les affiches, on les voit, on les aime ou pas, mais on ne sait pas forcément les faire. Donc ça, par exemple, pour les concerts, par exemple, on est toujours obligé d'essayer de voir dans nos contacts à nous s'il n'y a pas quelqu'un qui sait s'y faire avec la sono, parce que sinon, on ne sait pas faire. Donc c'est plein de petites personnes comme ça que bon, s'ils veulent faire partie de la MAJ, on les accueille volontiers.
Voilà, et puis du coup là, une ou deux webmasters, ça pourrait être intéressant.
Ce serait pas de refus.
Bah, l'appel est lancé, contactez. Alors comment est-ce qu'on vous contacte? Via la page Facebook tout
simplement. Absolument, ou par Instagram, parce qu'il y a plein de personnes qui arrêtent d'utiliser Facebook, donc on a décidé de passer de
ou
l'autre
par
côté de la force.
Ou par email. Mais, vous voulez donner l'adresse?
amage@unige.ch.
Très bien. Dernière petite question concernant la MAJ et puis ensuite on passe à la conférence. Qu'en est-il du... Parce que ça, c'est souvent un problème à l'Uni, pour Fréquence Banane, pareil. Qu'en est-il du renouvellement du comité, de l'association? Parce que ben, les études, c'est qu'un passage dans la vie et ensuite, on se dirige vers autre chose et du coup, il se peut qu'il y ait des moments de carence. Alors, qu'en est-il à la MAJ?
Jusque-là, on n'a pas eu de soucis avec ça. Jusque-là. Okay. Et on fait en sorte de ne pas en avoir... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
De, est-ce que, comment dire, pas qu'on garde une atmosphère associative très cool, si on veut banaliser comme ça, très sympathique, et qu'on transmette les messages et l'idée derrière l'association de sans réunion formelle, en discutant, en parlant comme ça, petit à petit, les nouveaux arrivés. Ils voudront prendre les postes, ils voudront continuer, ils voudront prendre la relève pour rester aussi dans la même lignée.
D'accord. Très bien, c'est toute une stratégie.
Exactement.
Mais qui est, voilà.
Qui s'élabore.
Ouais, très bien, très bien. Le mardi 2 avril 2019 à 19h30, pardon, au Temple de Plein Palais, ce sera Anouar Kadour Chérif et son quartet. Venez découvrir les rythmes du Chaabi algérien et de la musique traditionnelle arabe, c'est ça.
Absolument.
Voilà, donc l'appel est lancé là également. Les billets, alors on l'a dit, c'est sur place ou alors par PayPal via le lien qui est sur la page Facebook.
Ouais.
Et puis sinon, à la librairie de l'Olivier, 5 rue de Fribourg, là également on peut aller à, en avance pour acheter son billet. Absolument. À partir de maintenant.
Absolument.
D'accord. Ok, ok. Alors, voici pour cette voilà pour cette partie-là, la partie du concert. Maintenant, parlons de cette conférence. Liban, une institutionnalisation de l'oubli, l'histoire d'une guerre sans fin. Ça veut est-ce à dire que la guerre, la guerre du Liban, qu'on l'appelle comme ça, aurait commencé avant 75 et qu'elle finit après les accords de Taif en 89?
C'est une très bonne question. Votre question pourrait faire l'objet d'une conférence.
Bah, allons-y.
Donc, bon, est-ce que la guerre a commencé avant 75? Officiellement, non. La littérature suggère que oui, à certains moments, parce qu'on a eu des moments ponctuels dans l'histoire libanaise qui disent que voilà la guerre. Mais elle a commencé en...
Donc elle a éclaté.
Elle a éclaté, on l'a vite, comme disent les Américains, containment. Mm-hmm. Vous voyez, on l'a vite recadré, on l'a vite reprise. Mais en 75, on n'a pas pu la contrôler. Bon, la fin de la guerre, officiellement aussi, c'est en 90. Avec tout ce qui est venu après, mais le choix du sous-titre, l'histoire d'une guerre sans fin, c'est... Bon, vous avez été au Liban plusieurs fois et on entend souvent dire au Liban que la guerre n'est pas finie. Parce que depuis, il n'y a rien qui n'a changé. Et même ceux qui ont vécu la guerre, ils ont tendance à dire des fois que durant la guerre, on vivait mieux. C'est des grandes paroles aussi. Donc il faudra traiter de ces problématiques-là. Et d'où la conférence.
Mais oui. Le Liban, comme on l'a dit, c'est un pays beaucoup, tous les pays sont singuliers, bien entendu. Il y a, par rapport, comme caractéristique de l'organisation politique du Liban, il est ces confessions qui sont toutes... L'idée, c'était de pouvoir les représenter au pouvoir pour justement désamorcer des conflits. Mmh. Et on a vu que ça, finalement, ça n'a pas marché, pas complètement marché, ou pourquoi, selon vous?
Selon moi, bon, alors c'est pas... Disons que c'est pas la structure politique en elle-même qui est mauvaise. Si on veut donner un part de vrai à tout le monde. Parce qu'en 1943, quand il y avait le pacte national qui a dit que le président doit être chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite et le chef du parlement musulman chiite, à l'époque, c'était une révolution. Que comment on
tout
a pu mettre tous ces gens ensemble?
Incroyable.
Parce que ça, c'était magnifique. Oui. Mais pas plus longtemps après, en 1975, 30 ans après, 32 ans après, la guerre a éclaté. Est-ce que c'est dû qu'au... système politique, ou est-ce plutôt dû à des facteurs qui sont rentrés dans le système politique, comme le clientélisme par exemple, comme les préférences, disons nos, on se connaît, viens avec un clin d'œil, on passe à côté de moi, on voit pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, les modèles de patron-client qui font que les engrenages politiques rouillent au pays. Vous voyez, c'est pas les institutions en elles-mêmes qui sont mauvaises, disons. Mais voilà, c'est des paramètres et des facteurs qui ont petit à petit mangé l'establishment politique. Et est-ce qu'elle est finie ou pas? Oui et non, parce que les seigneurs politiques, les leaders miliciens, il y a une grande liste, ils sont toujours au pouvoir.
Et c'est ça, les familles, les Hariri.
Hariri peut-être pas, il n'était pas durant la guerre, mais Samir Jaja par exemple, Nabih Berri qui est chef du Parlement, mais qui durant la guerre était chef du mouvement Amal, il a commis des atrocités qu'on ne pourra pas décrire. Donc voilà, donc elle est finie ou pas, nous invitons l'audience aussi le 11 avril.
Voilà, on ne va pas en dire trop parce que justement les gens vont évidemment
sinon,
découvrir.
Sinon on annule le billet de Monsieur Combe.
Non mais c'est vrai que juste pour voir, alors Georges Combe ne sera pas seul pour cette conférence, mais on va déjà donner la date et le lieu. Donc ce sera le jeudi 11 avril à 18h30 à Unimail, donc la salle, c'est la salle MR280.
C'est côté parc à gauche, l'auditoire rouge, après la cafette.
Ouais, super. On l'a dit, la date, elle voulait être calée sur le 13 avril. Ça c'est déjà dit, et la conférence sera accompagnée d'une exposition dans le hall d'Unimail.
Exactement.
Qui débutera, elle, dès le 10.
Non,
pardon.
Petit changement.
Ah,
elle ne pourra débuter que le 11, parce que comme disait Rim, réservation et tout ça, on n'a plus qu'à voir ça le 11.
D'accord.
Donc le jour même de la conférence, c'est un jour après, le vendredi.
D'accord, donc on invite les personnes à venir avant pour pouvoir justement s'imprégner avec les photos qui traitent justement de la guerre civile libanaise.
Et de problématiques connexes aussi, parce qu'il y aura deux allées. Une allée où il y aura des photos directement liées à la guerre et d'un autre côté, plus des sujets qui poussent à la réflexion, si on veut dire, ne suscitant pas d'émotion, de compassion, qui sont des problématiques connexes, comme les disparus de la guerre Où sont-ils? On n'a toujours pas traité cette question au Liban, par exemple.
Y a-t-il également un problème avec le retour des personnes qui sont parties du Liban? Ou ça, c'est pas quelque chose qui, comme pour la Palestine, est prégnant?
Pas autant. Mais il y a quelques scénarios, oui. Mais ça dépend, est-ce qu'ils étaient plus alliés avec Israël durant la guerre ou pas? Parce que souvent, ceux qui étaient alliés officiellement avec, ils ont dû quitter, ils n'ont pas pu revenir. Ou qui sont en Israël maintenant. Mmh. Et vu que les deux pays ne se reconnaissent pas, le Liban et Israël, c'est...
Ouais. Est-ce qu'il se joue au Liban quelque chose qui nous concerne toutes et tous, notamment à l'aune de l'actualité qui nous encercle? C'est cette combinaison, cette intersection des différentes choses qui sont le territoire, la religion, l'appartenance, la famille. Parce qu'on peut dire qu'effectivement, il y a de quoi dire qu'une oligarchie règne à un moment donné au Liban. On peut dire également que les groupes religieux amplifient peut-être ce problème-là et que les espaces territoriaux en délimitent les confrontations. Est-ce qu'on peut dire ces choses-là pour le Liban?
Est-ce que, donc, votre question, c'est, vous pouvez la reformuler?
Oui, alors la question, c'est: est-ce que selon vous, ce qui se passe au Liban a quelque chose dans l'actualité que l'on vit aujourd'hui concernant le communautarisme, concernant la question des frontières, quelque chose qui est particulièrement prégnant, particulièrement présent et qu'il est urgent de traiter?
Au Liban.
Au Liban.
Oui. C'est de un... Bon, il y a beaucoup de choses dont il faut traiter. Mais si l'on veut commencer par une des choses, ça serait, par exemple, juger les criminels de guerre. Si on veut commencer, c'est peut-être pas la grande priorité, mais il faudra à un point le faire. D'où le 11 avril.
Oui, absolument.
Et il ne faut pas non plus, parce qu'on a un grand problème au Liban, on attend partout, pas qu'au Liban, il ne faut pas non plus rentrer dans la narrative de la particularité libanaise, parce que sur un planisphère, il fait la taille d'un ongle, le Liban.
4 millions seulement d'habitants.
10 452
km². Un quart de la Suisse.
La taille de la Suisse romande.
Un peu moins. Avec la Syrie au nord, quasiment même les deux tiers.
À l'est, la Méditerranée à l'ouest et la Palestine occupée. Au sud.
Donc ça, c'est le Liban. On le rappelle, donc la taille de la Suisse romande.
Une
population de 4 millions d'habitants.
De 4 millions, même pas officiel. C'est les gens qui le disent.
Ok. Et avec, évidemment, la capitale Beyrouth, qui a quand même, j'imagine, plus d'un million même d'habitants.
Oui.
D'accord, beaucoup de monde urbanisé quand même. Et puis avec les villes après, jusqu'à Tripoli au nord.
Et Naoura au sud.
Les crimes de guerre, ça, c'est quelque chose dont on peut imaginer que dans un avenir raisonnable... Une génération, deux générations, on revienne là-dessus et puis...
Une génération, deux générations, j'ai peur que ça sera tard. Parce que les criminels de guerre, ils ont déjà 80 ans.
Ouais.
Ce qui nous entraîne à une autre question, est-ce que c'est encore primordial de les juger? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vu qu'ils vont mourir, ça sert à quelque chose ou ça ne sert pas à quelque chose? Faudrait retacler la question d'une autre manière ou... Voilà, ça c'est un grand débat justement. Il ne faut pas non plus rentrer dans des narratives mystiques, Le Liban est un pays religieux, parce que comme on parlait des grilles d'analyse avant, analyser à travers le religieux, ça, les propos seront erronés dès la première seconde. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Parlons des intervenants. Donc nous avons Georges Korn,
conférencier principal.
Voilà, qui est donc ancien ministre des Finances au Liban, professeur actuellement à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth.
Et à l'American University aussi.
Également auteur de plein d'ouvrages concernant, on peut dire que lui c'est un spécialiste justement de la question, entre guillemets, libanaise.
C'est un grand spécialiste, donc lui il est particulier justement parce qu'il est autant spécialiste dans les questions internationales que dans les questions régionales que dans les questions locales. Vous voyez ce que je veux dire? Autant multidisciplinaire parce qu'il peut jouer sur du droit que sur de la politique, que sur de l'histoire, que sur de l'économie. Et lui, pour que l'audience le sache, de profession, il est économiste.
Oui.
Il a fait ses études en sciences politiques et en droit à Paris, mais de profession, il est économiste. Donc c'est ça qui est particulier en lui aussi.
Absolument. Et il sera épaulé par deux autres invités.
Exactement.
Voudriez-vous en énoncer?
Oui, il y aura docteur Daniel Meyer, qui était à l'Université de Genève il n'y a pas longtemps, qui est maintenant... chercheur entre Grenoble, Turin, Milan pour plusieurs masters et centres sur le Moyen-Orient. Et il y aura docteur Aline Schlepfer de l'unité d'arabe à l'université de Genève qui enseigne à l'unité d'arabe et au master Moyen-Orient.
Très bien.
Oui.
Eh bien, une belle brochette, dis donc. Entrée libre, on rappelle les dates, c'est donc le jeudi 11 avril à 18h30 ici à Unimail.
Exactement.
Salle MR 280.
Exact.
Vous vous attendez à quoi, vous, avec cette conférence?
J'espère qu'elle fera le buzz. J'espère. Ouais. Parce que c'est, mis à part l'association et nous-mêmes en tant que personnes intéressées, avoir une personne comme Georges Korm au sein de l'université, faut en profiter.
Absolument.
Parce que dans la région, chez nous, des penseurs de ce niveau, il n'y en a plus autant. Parce qu'on a une fuite de cerveau incroyable. On est tous là, voilà l'exemple. Il n'y a personne chez nous. Et il faut profiter de sa présence, parce qu'il est âgé aussi.
Oui.
Et il faut profiter autant de son expertise professionnelle que de son expertise académique. Parce qu'il est excellent.
Et oui. Voudriez-vous nous dire de quelle manière est-ce que... Parce que c'est quand même une pointure, Georges Korm.
Oui.
Comment est-ce que vous avez réussi à hameçonner ce monsieur?
C'est comme un grand poisson, exactement, hameçonner. Donc c'était fin septembre de l'année passée, 2018, et bon, j'avais déjà l'idée de la conférence en tête, et j'avais pensé à Georges Korm, ça fait beaucoup d'années que je lis ses livres, et bon. Et donc j'avais envoyé un email à deux adresses email, une pour l'université, une autre pour sa boîte de consulting à Beyrouth. Une semaine après, on reçoit une réponse. Tout va bien, très cool, cher étudiant, merci pour l'invitation, voilà, juste deux, trois questions, et on a continué l'échange jusqu'à Noël. J'avais pris un rendez-vous, j'ai été le voir à son bureau. Très sympa, très, très cool, comme ça. Et on a fixé le tout. Et là, on est encore sur des échanges pour les questions logistiques. Et il sera là le lundi 8 à Genève. Et il part le vendredi 12. Et pour l'information, le mardi 9, il donne une autre conférence au Club Suisse de la Presse.
Ah.
De midi à 2 sur des questions plus de mondialisation.
D'accord.
Ça, c'est pour
la conférence ici, sera-t-elle en français?
Oui.
D'accord. Et puis alors, concernant le titre, justement, oui. A-t-il été consulté? Qui en a décidé du libellé final? Liban, on le rappelle, hein, c'est Liban, une institutionnalisation de l'oubli, l'histoire d'une guerre sans fin.
Donc il n'a pas été revu, il a été revu par un petit comité de... c'est nous quoi. Moi, mes amis proches, on l'a posé comme ça, j'avais sorti le titre, tout le monde était d'accord, et on s'est dit, bon, pour rendre... parce que... à Genève, forcément, c'est pas tout le monde qui connaît ces problématiques. On a rajouté le petit sous-titre, l'histoire d'une guerre sans fin, pour plus mettre dans l'ambiance. Et l'affiche, elle le montre très bien, c'est un drapeau libanais déchiré. Donc voilà. Et pour l'information aussi, l'exposition aussi, la pièce principale, ça va être aussi un drapeau libanais déchiré. Parce que comme ça, les deux se rejoignent.
Ouais.
Pour montrer l'effritement du pouvoir central qui est encore actuel jusqu'à aujourd'hui, au profit de plusieurs choses.
D'accord. D'ailleurs, les photos, de qui en sont les photographes?
Les photos de...
Ce sont les photos de
l'exposition.
Ouais, de l'exposition.
Ah, c'est pas un photographe particulier.
D'accord. Donc
on aura plusieurs sources. Oui.
D'accord. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Y aurait-il une question à laquelle que je n'ai pas pensé à vous poser, à laquelle vous auriez souhaité répondre, Rim et Karim?
C'est tout bon, je pense.
Alors, ça veut dire qu'on a fait relativement le tour de la question. En tout cas, nous, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette conférence. On espère et probablement que vous êtes assez optimiste concernant les personnes qui vont venir. Oui.
Il faut l'être.
Non, on l'est.
Sinon, on ne fait jamais rien.
On l'est.
Ouais. Non, tout à fait. Mais je veux dire, c'est vrai que là, c'est quand même assez impressionnant. Il suffit que le service de presse de l'université fasse un peu son travail. Et puis, il faut que les étudiants sachent.
Et justement, vous avez soulevé ce point. Pour la pub, il y aura, comme pour le concert, sur les écrans télé d'Unimail, sur des affiches dans tous les bâtiments d'Unimail. Il y aura dans les cafés, dans des restos. Et en plus, pour la conférence, le GSI va envoyer des emails parce que c'est en soutien du Global Studies Institute de l'université qu'on le fait.
Très bien. Alors, pour résumer, le 2 avril, c'est la musique. Et le 11 avril, c'est la conférence. Tout ça organisé par l'AMAGE.
Exactement.
Dont la page Facebook est au titre AMAGE. En mettant AMAGE, on trouve.
Exact.
Et toutes les informations, ainsi que tous les détails concernant les billets et puis le contenu de la conférence, ainsi que l'exposition, se trouvent sur la page Facebook.
Exactement.
Tout à fait.
D'accord. Karim, merci beaucoup. Rim, merci à vous.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve certainement pendant la musique et pendant la conférence.
Parfait. Alors.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.